La nuit croche au cadran et indique 6 heures au compteur. Plaisir pour moi de vous retrouver. Bonjour et bon réveil à vous tous.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Je me tourne vers Léa Journeau pour l'accueillir, bonjour. Ah bah si je vous avoue pas
le avec micro. Avec le micro c'est quand même un tout petit peu plus pratique. Bah bonjour,
bonjour
Caroline,
bonjour,
on n'est pas
bonjour.
Encore tout à fait réveillée.
Moi non, c'est un petit peu dur.
Moi non plus, mais ça va le faire.
L'actu c'est parti.
On y va, le conseil général de Viona s'est réuni en séance extraordinaire hier soir à la salle de la Greffa. Pour la deuxième fois en un peu moins de deux mois, il devait se prononcer sur la mouture 2025 du budget communal rejeté en décembre dernier. Accepté ce mercredi soir par 23 pour et 5 abstentions et aucune opposition. Il affiche toujours un surplus de charges. Celui-ci a néanmoins été réduit. Il est passé d'un peu plus de 3 millions de francs en décembre à 2 180 000 francs aujourd'hui. Quant à la marge d'autofinancement, elle est passée d'un déficit de 1,5 million de francs à un manque de 633 000 francs. Bien que le travail d'élaboration de cette seconde version fût conséquent et rythmé ces dernières semaines, il ne fait que commencer. La commission de gestion réclame un plan de retour à l'équilibre. Xavier Mottet, président de la Cogest et membre du PLR Cohésion Communale.
On veut savoir où l'on va rapidement. On veut également une vision à moyen long terme, pas forcément un plan quadriennal, mais sur plusieurs années, quelles sont les visions? Quand est-ce qu'on peut entrevoir des recettes supplémentaires par des modifications de règlement ou quelles sont les économies qui sont possibles par des synergies, peut-être des synergies intercommunales à creuser. Mais nous, on attend maintenant du conseil communal qu'il fasse ce travail et nous, on appuiera, on étudiera avec le conseil communal en parfaite intelligence.
De son côté, l'exécutif annonce la mise sur pied d'un audit de fonctionnement de la commune en parallèle d'un plan de retour à l'équilibre. Un sujet de Guillaume Abbé.
La Tour de Paix pourrait entreprendre la transformation de son château.
Une réfection intérieure et extérieure à près de 9 millions de francs. Une mise à l'enquête publique en ce sens a été déposée la semaine dernière par la municipalité Boëlande. Un premier projet de rénovation avait été rejeté il y a 10 ans. Cette fois, par le biais d'une démarche participative, la population a pu faire part de ses attentes concernant la transformation du château, monument classé d'importance nationale. Un procédé qui a mis en lumière l'attachement des Boëlands pour leur patrimoine. Yves Roulet, chef de service domaine et bâtiment.
C'est un emblème iconique de la ville, évidemment. Il n'y a pas tous les jours un château chez soi. Ce qui était important aussi de constater, c'est que la population souhaite conserver sa relation avec le château, c'est-à-dire pouvoir y aller, se restaurer, mais aussi avoir des activités connexes. Aujourd'hui, il y a pas mal d'activités autour du jeu. Il y a le festival des jeux, il y a des petits concerts, il y a des choses comme ça qui vont certainement être amenées à se renforcer. Le but, c'est que la population rencontre le château et que le château rencontre le musée, que le musée rencontre la population.
Des propos recueillis par Martine Vistiner, le conseil communal doit encore se prononcer concernant le crédit de construction. La décision devrait être prise lors de la séance de février ou de mars.
Le conseil fédéral a tenté d'apaiser les tensions avec l'Italie.
À la suite de la tragédie du 1er janvier à Crans-Montana, il soutient le principe d'une enquête commune. Il envisage aussi une indemnisation fédérale des victimes. La porte-parole du conseil fédéral, Nicole Lamont.
Le Conseil fédéral comprend le choc que cette catastrophe a également provoqué en Italie. Comme des citoyennes et des citoyens italiens ont également été touchés par l'incendie, la justice italienne doit impérativement ouvrir une procédure pénale. Elle a adressé à cette fin une demande d'entraide judiciaire à la Suisse. L'Office fédéral de la justice l'a transmise au ministère public valaisan pour exécution. Le ministère public du canton du Valais se prononcera d'ici à la fin de cette semaine. Les équipes communes d'enquête sont une pratique courante dans les procédures complexes. Elles permettent un traitement efficace des affaires pénales, ce que le Conseil fédéral salue expressément. Pour le Conseil fédéral, une chose est tout à fait claire, personne ne doit passer au travers des mailles du filet des aides disponibles. Si nécessaire, le Conseil fédéral demandera au Parlement des fonds pour une aide subsidiaire de la Confédération.
Des propos recueillis à Berne par notre correspondant Serge Jubin. Prévenir les viols conjugaux en mettant fin à une ambiguïté juridique ancienne. Les députés français ont voté hier à l'unanimité pour entériner dans le droit l'absence de tout devoir conjugal au sein du mariage. La proposition de loi transpartisane devra maintenant être examinée au Sénat. L'administration Trump, qui avait joué l'apaisement ces derniers jours face à la vague d'émotions suscitée par la mort de deux Américains à Minneapolis, a de nouveau durci ses propos hier envers cette ville devenue l'emblème de sa politique migratoire. La police aux frontières a annoncé qu'elle avait suspendu dès samedi deux agents impliqués dans la mort d'Alex Pretty, tué de 10 coups de feu. Et il n'y a pas qu'à Minneapolis que les déploiements de la police de l'immigration américaine ne plaît pas. La manifestation pacifique organisée au Texas pour la libération d'un enfant de 5 ans détenu par la police aux frontières a été dispersée hier à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre, selon l'AFP. En tout, le déploiement de moyens militaires dans les rues par Donald Trump a coûté près de 500 millions de dollars l'an dernier, selon une estimation d'un organisme du Congrès publié hier.
On passe au sport et on parle de ski alpin ce matin.
Et le slalom de Schladming n'a pas souri aux Suisses hier soir. Meilleur helvète Tanguineff, 9e. Il s'est fait l'auteur d'une grosse faute en fin de deuxième manche, sans quoi il aurait pu viser un top 5, voire un podium. La frustration était ainsi grande pour le Genevois.
J'ai amené vraiment du bon ski sur la table. J'avais un matériel qui ne voulait pas être le plus facile à skier, donc il fallait être très exigeant, très conséquent. Donc je m'en sors assez bien finalement en première manche, même si voilà, je perds trop de temps. Et puis ensuite, tactiquement, j'ai aussi encore pas mal changé au niveau de mon matériel pour m'adapter pour cette deuxième manche. C'était une deuxième manche très exigeante, il fallait pas lâcher un virage. Et je crois que je l'ai fait jusqu'au moment où justement lâcher un virage. Et après, ça se paye cher, je dirais le prix il est cher. J'avais vraiment ma chance, ça me met un peu en paix de voir que j'aurais pas pu être sur le podium. Par contre, mais j'aurais pu vraiment être, je pense, 4 ou 5e. Avec la manche que j'étais en train de faire, donc c'est frustrant, mais j'aurai ma revanche.
Vainqueur la veille sur le géant, Loïc Meillard est très vite parti à la faute en deuxième manche. Daniel Yule non plus n'a pas trouvé les clés de la victoire. 21e de la première manche, le skieur de la foulée a finalement échoué au 17e rang. Ramon Senhuizen a lui marqué des points pour la 3e fois de la saison grâce à son 20e rang final. Enfin, dernier roman en lice, le vaudois Marc Rocha ne s'est lui pas qualifié pour la deuxième manche. La victoire est revenue au Norvégien Henrik Kristoffersen qui s'est imposé sur la planaille pour la 5e fois de sa carrière. Le podium a été complété par un autre Norvégien, Atleli McGrath, et le Français Clément Noël. Et tout ceci était un sujet de notre envoyé spécial à Schladming, Thierry Nicolet.
Merci beaucoup Léa, on rempile à 7h et d'ici là, ce que je propose, café.
Exactement.